Cité Radio. Il est 13h.
Family Park, c'est le parc d'attractions en Indre-et-Loire. Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et profiter de nombreuses attractions comme le Family Coaster, le Liberty Slide et le Tiki Waka. Et pour cette année 2024, venez découvrir le Fly Swing mais aussi le Jet Boat pour un surprenant baptême de l'air à fond les manettes. Enfin, accrochez-vous à votre sombrero qui vous transportera dans d'incroyables tourbillons. Rendez-vous dès le 20 avril 2024 au Petit Nitilly à Sorigny pour faire le plein de sensations à Family Park. Informations à retrouver sur le site familypark37.com et sur les réseaux sociaux. Et sachez que vous pouvez tenter de gagner vos places et vos passes en participant à notre jeu concours. Pour cela, il suffit de répondre à une question en allant sur notre site citeradio.fr. Family Park, l'aventure commence ici.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio. Nous, à Cité Radio, on ne vous emmènera pas faire de la plongée sous-marine, ni nager aux côtés des dauphins. Mais grâce à notre site citeradio.fr, on vous garantit de l'info locale, de la culture et de la bonne humeur, et la possibilité de nous écouter 24h sur 24, où que vous soyez. Et ça, c'est déjà pas mal. Citeradio.fr, le site de la positive info.
Family Park, c'est le parc d'attractions en Indre-et-Loire. Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et profiter de nombreuses attractions comme le Family Coaster, le Liberty Slide et le Tiki Waka. Et pour cette année 2024, venez découvrir le Fly Swing mais aussi le Jet Boat pour un surprenant baptême de l'air à fond les manettes. Enfin, accrochez-vous à votre sombrero qui vous transportera dans d'incroyables tourbillons. Rendez-vous dès le 20 avril 2024 au Petit Nitilly à Sorigny pour faire le plein de sensations à Family Park. Informations à retrouver sur le site familypark37.com et sur les réseaux sociaux. Et sachez que vous pouvez tenter de gagner vos places et vos passes en participant à notre jeu concours. Pour cela, il suffit de répondre à une question en allant sur notre site citeradio.fr. Family Park, l'aventure commence ici.
Bonjour et bienvenue sur Cité Radio. Je suis aujourd'hui avec Olivier Renard, président de l'association Météo Centre. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commencer par vous présenter, expliquer un peu votre parcours?
Alors, du coup, Olivier Renard, moi, je suis fondé Météo Centre, même avant le côté associatif, en 2009. J'ai monté le site web tout seul, avec mon petit clavier. Et puis, en 2011, à la troisième version du site, comme tout ça marchait relativement bien, on a décidé de passer en association loi 1901. De formation, moi j'ai une formation en biologie générale et sciences de la Terre et de l'univers à la faculté d'Orléans. Et puis maintenant je suis professeur de sciences de la vie et de la Terre depuis 15 ans au lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux.
Et qu'est-ce que l'association Météo Centre?
Alors du coup, à Météo Centre, ça regroupe en fait des passionnés de météorologie et de climatologie dans la région Centre. Dans la région Centre-Val de Loire, donc on est actuellement 170 adhérents, pour vous donner à peu près une idée. Et puis les trois grands axes de l'association, finalement, c'est à la fois de fournir des informations gratuites au grand public sur des phénomènes météo qui vont toucher notre région et notamment aussi l'Indre-et-Loire. Du coup, c'est dans un deuxième temps de créer un réseau de webcams météo, donc qui permettent une observation en direct. Et puis aussi, bien entendu, on a même commencé par là, c'est de construire du coup un réseau de stations météo semi-professionnelles que l'on déploie nous ou que l'on aide des particuliers à déployer. Et donc à l'heure actuelle, on a à peu près 80 stations sur la région Centre et les départements limitrophes.
Donc vous expliquez, vous aviez 170 adhérents. Comment est-ce qu'on peut devenir adhérent?
Alors du coup, il suffit d'aller sur le site du coup météo-centre. Tout en haut à droite, il y a un petit onglet adhérer, et puis ensuite, du coup, il suffit de se laisser guider. On a trois types d'adhésion. On a les adhésions à 17 euros par an. Alors, c'est de date à date. Hein. On adhère tel jour de mars, c'est jusqu'à tel jour de mars 2025. On n'est pas sur une adhésion annuelle comme la plupart des autres associations, puisqu'on considère que voilà, on a encore la capacité de suivre nos adhérents au jour le jour. Donc 17 euros voilà, pour une personne simple, 30 euros pour les couples et puis 50 euros pour les personnes morales.
Et quel est le rôle de ces adhérents?
Pour certains, du coup, ça va leur permettre donc d'avoir des avantages, hein, par exemple de pouvoir avoir une webcam qui va être payée par l'association. Alors il y a quelques règles à respecter. Voilà, il faut que bien entendu, ça soit pas trop proche d'une webcam. Faut pas qu'on filme les voisins, parce que ce qui nous intéresse, c'est principalement le ciel, bien entendu. Ça va être d'avoir aussi un rôle à jouer. Et là, du coup, on fait notre assemblée générale en avril. Bah voilà, de pouvoir intervenir. Lors de nos assemblées générales, de prendre un part aux directions et aux objectifs que l'on va fixer, pouvoir donner son avis et puis voilà partager avec les autres passionnés au cours de ces journées, du coup des informations sur ce qui se passe chez soi, pouvoir discuter d'un phénomène marquant, notamment par exemple.
Et est-ce que c'est le rôle de ces bénévoles aussi du coup d'informer sur la météo ou eux ils sont juste là à installer justement une webcam ou une station?
Alors ça peut, bien entendu, hein. On a par exemple là, deux nouveaux adhérents qui sont arrivés dans l'association il y a une quinzaine de jours et qui peuvent mettre, s'ils le souhaitent, à disposition leurs compétences. Alors là, c'est des compétences numériques pour nous aider justement sur la gestion des bases de données et toutes les datas qu'on peut créer au jour le jour avec le réseau de stations. Mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut simplement adhérer pour soutenir et puis justement, du coup, intervenir. Voilà, il y a un orage de grêle, bah, envoyer une photo ou pas, c'est pas obligatoire. Prévenir par les réseaux sociaux, nous envoyer un mail, c'est pas un souci. Ou alors, bah, justement, du coup, décider au bout de une année ou deux, on peut avoir des gens qui pendant 5 ans nous ont soutenus, puis au bout de 5 ans, ils ont dit bah en fait, comme je trouve que ça marche bien et que dans l'ensemble je suis grand ce que vous faites, bah voilà, moi je suis prêt à suivre la presse, à me déplacer sur 5 000 km quand il se passe quelque chose. Puis nous, du coup, on fait un petit résumé de tout ça, et puis bah quand on a besoin, les contacts, et après, de toute façon, il n'y a jamais rien d'obligatoire, bien entendu.
Donc différents degrés d'adhésion possibles.
Exactement.
Et comment est-ce que vous financez tout le matériel ?
On a principalement du coup les adhésions, très clairement, hein, c'est quand même plus de, je crois que l'année dernière c'est plus de 80% hein, de nos revenus. Après on a un petit peu de publicité sur le site, donc mais bon, pour rester dans les lois de 1901, on est obligé de limiter. Et après là, du coup, depuis cette année, la région Centre-Val de Loire nous a donné un petit peu d'argent justement pour nous aider pour tout ce qui est communication principalement. Donc ce qui fait que voilà, on peut déployer plus facilement des webcams finalement, parce que c'est quelques centaines d'euros. Donc on déploie plusieurs webcams par an. Là, on a notamment un projet par exemple à La Chapelle-sur-Loire, hein, dans l'Indre-et-Loire. Puis on essaye de financer de temps en temps des stations météo, mais c'est plus cher. Hein. Une station météo, c'est minimum en gros 1000 euros et ça peut aller jusqu'à 2000. Donc on essaye de fixer des objectifs à 3 années. En permanence pour forcer, voilà, une année 1, on fait plutôt de la webcam, une année 2, on fera plutôt une ou deux stations et très peu de webcam, une année 3, on fait sur les webcams pour continuer à déployer notre réseau.
Et pourquoi avoir créé cette association ?
Il n'y avait personne sur la région, et même si, en effet, il y a moins de phénomènes météorologiques que sur des zones de montagne ou sur des zones côtières. Hein. Moi, j'ai participé cette année aux rencontres nationales de passionnés. Je me suis un petit peu fait charrier parce que, oui, mais tu te rends compte, t'as fait une asso, il se passe jamais rien. Alors, c'est de la taquinerie gentille, hein. Il se passe bien entendu des choses. Mais c'est vrai que c'est moins riche, mais j'ai estimé à cette époque que, voilà, je vois pas pourquoi, même si c'était un petit peu moins riche, il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas une association de proximité pour regrouper ses adhérents et puis faire du travail sur le terrain et développer un réseau d'observation dans une région qui est quand même assez hétérogène. Et finalement, d'année en année, en densifiant les réseaux, on se rend compte que, bah oui, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer.
Et pourquoi c'est important pour vous de créer finalement ce réseau ?
Bah, parce que j'étais engagé en fait au niveau national jusque dans les années 2002-2003 et puis j'avais envie de faire plus de proximité parce que c'est vrai que bon, bah, quand on écrit un article sur un épisode Cévenol, bon bah c'est bien, hein, c'est intéressant, c'est de la météo, mais faire de la météo avec des gens à proximité, c'est plus intéressant. Maintenant, le conseil d'administration, c'est vraiment une bande d'amis, et on aime travailler ensemble. Ça se passe bien, il y a de bonnes relations, donc c'est assez intéressant. Et puis ça permet aussi, moi, d'un point de vue personnel, de toucher à d'autres choses qui peuvent être en lien avec mon métier. Voilà, en tant que professeur de terminale, j'ai travaillé sur météo et climat, donc ça m'apporte une vision différente des autres professeurs. Et puis là, on a eu la chance d'avoir un siège au Conseil supérieur de la météo. Donc maintenant, j'y siège régulièrement dans certaines commissions. Et c'est vrai que c'est intéressant pour un développement personnel, bien entendu, d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue professionnel. C'est très intéressant d'être un petit peu à la page de tout ce qui va se faire au niveau national et au niveau régional.
Et qu'est-ce que c'est le Conseil supérieur de météo ?
Alors, le Conseil supérieur de la météo, c'est en gros 400 personnes sont réparties dans différentes commissions qui font le lien entre l'État, Météo France, des passionnés de météorologie, puis tous les instituts, CNRS, notamment par exemple RGM, INRAE. Et voilà, en fonction des commissions, on va débattre de différents sujets pour voir ce qui va être mis en place au niveau de Météo France, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. C'est juste, en fait, voilà, c'est pas un organe décisionnel, mais c'est plutôt un organe délibératif où on va beaucoup discuter. Alors bon, bah, des fois, on n'est pas content de ce qui va en sortir ou pas, mais dans l'ensemble, pour les premières commissions que j'ai pu mettre en place, ça se passe dans de bonnes conditions. Et je trouve que l'écoute est quand même assez intéressante.
Quels sont vos besoins aujourd'hui avec l'association Météo Centre?
Toujours plus d'adhérents, toujours plus de passionnés, forcément. Hein. Regrouper vraiment toutes les personnes qui sont intéressées par ça. Et puis bah, après, des bénévoles, hein, bien entendu, éventuellement, hein, pour rentrer et pour renforcer l'équipe en termes de prévision, la gestion des réseaux sociaux, parce que on a une communauté qui approche des 70 000 et ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir gérer toutes ces personnes. Ils sont parfois particulière sur leur point de vue. Donc c'est vrai qu'on a eu un épisode de climato-sceptiques qui ont essayé de détruire un peu notre communauté cet été. Donc ça a demandé beaucoup, beaucoup de vigilance sur les réseaux. Et puis après, bah forcément, des personnes qui sont potentiellement en capacité, comme je disais, de traiter des datas ou de donner un petit peu de leur temps pour faire des enquêtes de terrain quand il se passe un orage de grêle sur une zone. Bah, nous, c'est vrai que on a bien entendu des adhérents sur la Touraine, hein, c'est pas le souci, mais ils sont pas forcément toujours disponibles. Donc plus on a de personnes, plus on a potentiellement entre guillemets un vivier de personnes qui peuvent se déplacer, bah plus on a de chances d'avoir une personne ou plusieurs personnes qui peuvent se déplacer, faire une étude et puis du coup faire remonter et pouvoir créer des articles en disant voilà, on a eu un orage, il s'est passé ça, on a des photos, malheureusement il y a des dégâts, il n'y a pas de dégâts, etc. etc.
Et je suis quand même assez curieuse de savoir qu'est-ce qui vous passionne dans la météo.
Alors je pense que je suis tombé dedans assez petit. assez petit quand je me rappelle hein, déjà j'étais en primaire petite classe hein, CP CE1 à regarder déjà les orages par la fenêtre, regarder la foudre tomber, écouter le tonnerre tomber et puis après je pense que comme beaucoup en France en fait je fais partie de la génération des tempêtes Lothar et Martin de 1999 où voilà il y a vraiment eu un choc en disant voilà même si on est un pays où on était peut-être un petit peu moins, mais on était un peu protégé de tout ça, mais ça avait déjà existé, bien entendu. Bah, il y a eu un choc, il y a eu un déclic chez beaucoup de gens, en fait, avec ces tempêtes, et on a commencé à s'intéresser à la météo. Le système de vigilance de Météo France a été mis en place. Et puis, petit à petit, on s'est mis à ça. Puis, moi, je suis chasseur d'orage aussi. Hein, on est beaucoup de chasseurs d'orage dans l'association aussi. Donc, on a vraiment une passion à la fois pour les gelées, alors même s'il y en a de moins en moins, pour les épisodes de forte chaleur, malheureusement, il y en a de plus en plus. C'est un domaine qui est très divers, on s'ennuie jamais parce que c'est jamais la même chose. Bon, même si des fois, je dois avouer que après 13 ans de bons et loyaux services, il y a des fois où j'aurais bien pouvoir me prendre une semaine au calme. C'est cet attrait, c'est aussi la relation avec la nature qui finalement décide vraiment de ce qu'elle veut faire. On est là, on n'est pas là. Elle a décidé de faire passer un orage ici ou des pluies pendant 3 jours abondantes sur telle zone. Malheureusement, il va y avoir des conséquences, mais c'est elle qui a décidé, c'est pas nous.
Vous parliez de ces épisodes de chaleur et donc effectivement depuis le début de 2024, on a enchaîné des températures plutôt douces. Puis ensuite, on nous apprend qu'il est tombé donc entre le 21 et le 26 février l'équivalent du double de pluie de la moyenne mensuelle en Indre-et-Loire. Est-ce que vous avez des explications pour ces phénomènes?
Alors en fait, c'est vrai qu'on a énormément de douceur. Alors on a eu un début janvier hein, qui a été plutôt dans les normes en fait d'un vrai hiver. Hein. Tout le monde a dit il fait froid, il fait super froid, mais en fait on était dans les normales, donc ça c'était plutôt pas mal. Ça a permis au moins d'arrêter un peu la végétation temporairement, et puis après on est reparti sur du doux, hein, voire du très doux. On a quand même eu jusqu'à 19,7 à Tours le 15 février, hein, donc c'est quand même des températures qui sont hyper importantes. Le mois de janvier avait été à peu près dans les normales hein, de saison. Par contre, c'est vrai que le mois de février, très très doux, on n'a quasiment pas eu de gelée. Hein. Je crois qu'on a eu une gelée, ce qui a sauvé entre guillemets le mois de février le 28, hein, même pas moins 20, hein, ce qui fait que s'il n'y avait pas eu cette gelée-là, je crois qu'il n'y aurait pas eu de gelée du tout du mois de février à Tours, ce qui aurait été inédit. Alors, ça a été le cas par exemple à Bourges, hein, 42 jours au cours de l'hiver sans gelée. C'est juste inédit depuis la création de la station de Bourges en 1945. Et là, en effet, on a eu ce gros épisode hein, de, de précipitations qui s'est vraiment mis en place à partir du 21 avec 21 mm, 11 mm, puis après ça continue, 3, encore 18, etc. C'est vrai qu'on a eu une récurrence, on a eu en fait une rivière atmosphérique qui s'est mise en place, hein, donc on avait de l'air qui arrivait en fait des Antilles, hein, de l'air assez doux, forcément, on l'a remarqué, mais en plus qui est chargé d'humidité. Et donc du coup, en arrivant chez nous, bah, il s'est déchargé une grande partie de cette humidité, et bah, ça a eu lieu pendant plusieurs jours de suite, hein, du coup, toute la fin février, et on a eu du coup des cumuls de pluie, en effet, qui ont été hyper importants.
Et est-ce qu'on peut dire que tout ça, c'est lié au réchauffement climatique, ou c'est plus des phénomènes météorologiques particuliers?
Plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'eau. Donc forcément, plus il fera chaud, plus l'air pourra se remplir d'eau. Et puis bah, forcément, plus il pourra pleuvoir potentiellement. Après, c'est un jeu de placement entre des anticyclones et des dépressions. Et ça, le réchauffement climatique, entre guillemets, il est en rien là-dedans. C'est juste un phénomène qui s'est mis en place temporairement à ce moment-là sur notre région. Alors c'est vrai que par exemple, si on prend les Hauts-de-France, hein, tout ce qui est Pas-de-Calais, eux, ça fait 4 ou 5 fois que ce genre de phénomène se met en place. Alors, on sait hein, potentiellement qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir une répartition des précipitations qui sera très différente, enfin potentiellement très différente de ce qu'on a pu connaître, c'est-à-dire des étés relativement secs et des hivers plus humides. Donc, dans cette optique-là, on est peut-être dans ça avec justement du mois de février pour cette année qui sont un mois de février qui est très humide dans ce moment-là. Mais on peut pas dire c'est à cause du réchauffement climatique qu'on a eu ce phénomène. On a eu ce phénomène parce qu'il fait plus chaud, il a été exacerbé parce qu'il fait plus doux que d'habitude pour ce mois de février, donc on a eu plus de précipitations. Mais voilà, on peut pas, tout n'est pas lié à ça. Il y a une partie vraiment placement atmosphérique des centres dépressionnaires et anticycloniques et en effet le réchauffement climatique avec de l'air plus doux que la normale.
Et donc on a l'impression quand même que depuis 2022, presque chaque mois est le mois le plus chaud jamais enregistré. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui risque de se poursuivre en 2024?
Alors, c'est vrai que quand on regarde les mois sur tour, pour retrouver un mois qui est inférieur au normal de saison, il faut remonter à janvier 2022. C'est-à-dire que depuis janvier 2022, tous les mois ont été, alors des fois très légèrement, hein, des fois c'est plus 0,5 degrés, hein, mais sur une température moyenne mensuelle, c'est quand même remarquable. C'est impressionnant cette série d'anomalies chaudes. En France, je crois que l'année dernière, c'est plus de 1000 records de température maximale battue pour peut-être à peine une centaine de records de France. Je crois que c'est même moins que ça, mais j'ai plus cette exacte en tête. Alors, c'est pas pour ça que cette année, ça va être exactement pareil. Ce que l'on sait, ce qui commence à se dessiner, c'est que le phénomène El Niño qui a lieu dans le Pacifique et qui a tendance à réchauffer l'ensemble de notre planète par son action, logiquement, est vu avec une forte baisse à partir de la fin de l'été. Donc peut-être qu'à partir de cette période-là, on aura des anomalies qui seront moins marquées, ou alors on va réussir à passer un peu dans le négatif. Mais c'est pas parce qu'un mois ou une succession, même si là c'est plus que notable, hein, c'est quand même assez exceptionnel, même si on a cette succession assez exceptionnelle qui s'est mise en place dans le temps, c'est pas pour ça qu'au mois de mars, on n'aura pas du coup plutôt froid. On peut difficilement se baser là-dessus. Après, on peut voir à nous sur le... C'est vrai que sur les tendances saisonnières là qu'on a prolongées jusqu'au mois de juin, bon, pour le moment on voit pas de mois normalement froid. Des mois plus humides, oui. À partir de mai, peut-être un peu plus de sécheresse, mais on voit pas d'anomalies froides pour le moment.
Et quel est l'impact de ces anomalies météorologiques en Centre-Val de Loire?
Ben, on a des renforcements des sécheresses, donc le renforcement des sécheresses forcément l'été. Bah, mais certaines essences d'arbres du coup sont quand même moins dans leurs conditions optimales pour vivre, donc même certaines dépérissent. Donc si on a des arbres qui sont fragilisés ou morts, bah, on a un risque d'incendie à fortiori lié à la sécheresse qui est plus important. On a des débits d'eau, des rivières qui sont en baisse, du coup les nappes phréatiques forcément sont des niveaux anormalement bas. Ça permet la progression de certaines espèces, je pense aux moustiques tigres, notamment dans certaines agglomérations ou métropoles, qui va très très vite parce qu'il n'y a pas assez de froid l'hiver pour tuer les larves, etc., hein, par exemple. Et puis, bah, on a aussi forcément une végétation. Or, les espèces véritablement sont en train de dépérir parce que les conditions climatiques ne sont plus adaptées à leur survie. Là, on a les phénomènes qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire des faux printemps sur un mois de février. Et puis, bon, du coup, toute la végétation démarre. On a déjà des fleurs, on a déjà des arbres qui sont bien trop avancés pour la saison. Et si au mois de mars ou au mois d'avril ou au mois de mai, on a des gelées, alors qui finalement ne sont pas si tardives de ça. Elles sont tardives parce que la végétation a beaucoup d'avance. Mais temporellement parlant, elles ne sont pas du tout en retard. Il ne faut pas oublier que, par exemple, à Tours, logiquement, il devrait geler encore au moins presque 4 jours au mois de mars, encore une journée minimum, normalement, d'après les normales de saison, au mois d'avril. Donc, on a ce décalage qui se met en place, finalement, entre la végétation, temporellement avancée dans le temps, en fait. On a l'impression vraiment que la végétation, là, elle a démarré mi-février, et alors que, logiquement, on peut encore avoir des périodes fraîches, voire froides, jusqu'en avril, des fois même un peu plus tard sur le reste de la région. Et puis, une des dernières conséquences, bah, c'est l'été qui est à la fois en avance, c'est-à-dire qu'on peut avoir des températures maintenant très élevées. Hein, si je prends l'année 2023, c'est vrai qu'on a eu le premier 30 degrés, plus de 30 degrés, on a eu le 25 juin, et on a eu jusqu'à plus de 30 degrés jusqu'au 2 octobre. Donc, on a vraiment un mois, vraiment presque 5 mois d'été, ou 5 mois tout du moins, avec des températures potentiellement supérieures à 30 degrés, donc forcément pour les organismes c'est pas bon. Même pour donner une idée, hein, c'est vrai que 2023 était très particulier. Les deux mois les plus chauds en 2023 l'été, c'est juin avec une température moyenne d'environ 21,6. Après c'est septembre avec 21, juillet avec 20,7 et août avec 20,6. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des mois logiquement de fin de printemps et tout début d'automne, juin et septembre, qui sont plus chauds que des mois d'été. Et donc là, c'est pareil, du coup, ça nous fait une période vraiment anormalement chaude, et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent aussi, hein, cette répétition des températures vers 30 degrés, on en a beaucoup trop, hein. Si on prend 2022, bah, c'est pareil, on avait eu les premiers 30 degrés le 15 mai, c'était quand même remarquable, et après, on a eu plus de 39 degrés en juin, en juillet, plus de 37 degrés en août, plus de 32 degrés encore en septembre. Donc voilà, on voit vraiment des étés qui ont tendance à s'allonger dans le temps à partir de, pour le moment encore juin, mais ça pourrait être mai, hein, et qui peuvent aller beaucoup plus loin jusqu'à septembre.
Est-ce qu'à l'échelle individuelle, il y a des mesures préventives qu'on peut prendre face à ces anomalies météorologiques?
Alors, vis-à-vis de la température, des hautes températures, de toute façon, on revient toujours sur l'isolation des maisons, dans la mesure des moyens de chacun. C'est vrai que c'est pas forcément une période qui est économiquement simple. Alors, même pour nous, on le voit au niveau des adhésions. On a plus de turnover au niveau des adhésions depuis un an ou deux, parce qu'on sent que même certains adhérents ont dit « Écoutez, je peux pas adhérer maintenant parce que j'ai pas 17 euros à placer. » Je dis « Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. » Des fois, quand c'est vraiment des situations qu'on connaît, on peut laisser un petit peu de temps aux gens pour nous faire parvenir leur cotisation ou encaisser les chèques le mois d'après. Enfin, on se débrouille, hein, on reste humain, hein, on n'est pas une entreprise. Après, c'est essayer, mais alors c'est pas forcément simple à mettre en place rapidement, hein, mais créer de l'ombre sur sa maison en respectant les voisins, etc. Si on plante des arbres, bien entendu. Il y a malheureusement pas grand chose à faire, hein, quand la nature a décidé de vous mettre 39 degrés pendant 3 jours. De toute manière, à un moment ou à un autre, la chaleur finira par rentrer. Et à contrario, hein, si on a des températures qui redescendent vers moins 5, moins 10, forcément, il faudra chauffer, on n'a pas le choix.
Sur une note un peu plus positive, vous avez annoncé fin février que vous allez fournir des données climatologiques pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors du coup, en fait, on a été contacté par un des responsables des tirs sportifs sur Châteauroux et qui avait besoin en fait de données justement de température maximale et sur les rafales de vent, parce que c'est du tir qui se fait forcément en salle, mais pas que, mais aussi du tir à l'extérieur. Et donc du coup, on a eu la chance de pouvoir aller chercher des données climatologiques avec notamment le modèle ERA5 qui vient de Copernicus, qui sont des données qui sont libres d'accès. Et donc du coup, on a fait nos petits calculs parce qu'on a j'ai la chance d'avoir dans mon équipe, hein, en tant qu'administrateur, un climatologue de formation. Et donc du coup, on a pu fournir ces données qui vont permettre du coup de mieux appréhender les risques qui pourraient y avoir justement sur cette période de JO, avec en effet, hein, des températures qui peuvent monter à plus de 35. Et puis sur les périodes estivales, c'est un petit peu moins marqué, mais on peut avoir quand même du moment où le vent est supérieur à 70 km/h, c'est complexe de maintenir des épreuves de tir, puisque forcément ça va quand même dévier les balles. Tout ça a été pris en compte, et donc on était content de pouvoir amener notre petite pierre à l'édifice à ces jeux qui sont organisés au niveau régional et national.
Est-ce que vous avez d'autres projets futurs en préparation avec Météo Centre ?
Alors du coup, on a plein de projets qui sont en train de se mettre en place, peut-être même un peu trop pour une équipe de bénévoles. Je parlais tout à l'heure, on a d'une webcam sur la chapelle sur Loire, on va faire notre assemblée générale du coup sur l'agglomération de Châteauroux en avril. On a d'autres projets de webcam et de station, notamment en Brenne, du côté du, enfin un petit peu au nord-est du Blanc. On voudrait essayer aussi d'implanter des stations météo et des webcams sur l'ouest Touraine, parce que c'est une zone malheureusement qui, pour le moment, on a du mal à s'implanter. Donc ça serait pas forcément pour 2024, mais sur 2025, on fait appel aux personnes qui seraient potentiellement intéressées pour qu'on puisse développer notre réseau dans cette zone, parce qu'on a du mal à aller travailler par là. Alors, on a eu la chance l'année dernière de faire un partenariat avec le Château d'Amboise et de les aider dans leur transition écologique avec l'implantation d'une station météo pour qu'ils puissent réguler un peu plus leurs arrosages et puis avoir une meilleure connaissance de l'humidité du sol. Mais voilà, donc après, oui, c'est des projets, mais sur le Loir-et-Cher, on devrait implanter une station météo à Blois. Sur Sancerre, on devrait avoir une webcam qui va se mettre en place aussi. On a d'autres projets sur l'Eure-et-Loir. Voilà, on a quand même une petite dizaine de projets qui sont en train de se dessiner. Alors, parfois avec des particuliers, parfois avec des métropoles, voilà, ou des communes. Donc, ce qui prend toujours plus de temps, ça fait un petit peu plus administratif, mais dans l'ensemble, ça se passe relativement bien.
Et pour conclure, est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs, un message que vous souhaitez faire passer ?
Bah, il faut vivre avec son temps, et c'est vrai que à l'heure actuelle, on est toujours dans ce contexte de réchauffement climatique, hein, donc c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais il faut bien penser à faire la différence et à s'informer sur les bonnes sources, croiser les informations, parce qu'on a malheureusement une toute petite communauté de gens, en fait. Alors, il y a un effet zoom, hein, c'est-à-dire qu'on les met beaucoup en avant, les climato-sceptiques, mais ils arrivent à faire quand même beaucoup de mal et à désinformer une partie de la population. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions sur nos réseaux. Alors, pas forcément que sur Météo Centre, hein. Vous pouvez aller sur d'autres associations, je pense à InfoClimat, l'Association Nationale, ou sur d'autres sites, hein, institutionnels, la Météo France, etc., bien entendu. Mais il faut pas s'enfermer, voilà, dans des croyances. Alors, beaucoup de gens disent oui, mais vous n'êtes pas encore sûr à 100%. Par exemple, est-ce qu'il y aura plus d'orages avec le réchauffement climatique? Donc, on a beau expliquer qu'on a encore des limites informatiques, des limites de coûts aussi, hein, tout simplement. Faut pas tomber entre guillemets dans l'obscurantisme et essayer d'aller de l'avant. C'est important. Si on tombe tous dans l'obscurantisme, on va pas avancer. Et je pense qu'on n'arrivera pas à régler un problème qui est déjà particulièrement épineux.
Donc on peut vous retrouver sur votre site internet météo-centre.fr, les réseaux sociaux. Exactement. Également, Facebook, Instagram. Est-ce que vous avez un mail ou un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter ?
Non, numéro de téléphone, non, c'est mon personnel, donc je ne le donne pas. On préfère pas mettre d'argent dans un forfait. Mais voilà, c'est pareil sur le site, hein, y a un formulaire de contact, donc on essaie d'être le plus réactif possible pour répondre. C'est souvent de l'ordre de 48 heures ou 72 heures, donc on sera à plaisir de répondre aux questions.
Eh bien, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir suivi et merci à Olivier Renard de nous avoir répondu. Excellente journée à tous sur Cité Radio.
Belle journée à l'écoute de Cité Radio. Merci d'être en notre compagnie. Nous allons poursuivre dans quelques minutes avec des bons plans à faire dans votre secteur. Mais avant cela, retour de la musique.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour. Elle va s'oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas.
En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Revient la nuit pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps.
Vous êtes à l'écoute de Cité Radio, la positive info. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Salut, c'est Guillaume Colomba. Retrouvez-moi dans Cité Culture, votre émission quotidienne. Musique, théâtre, littérature, l'essentiel de l'actualité culturelle locale et nationale est à découvrir chaque jour de la semaine sur Cité Radio.
Présenté par Guillaume Colomba, Cité Culture, c'est tous les jours à 11h sur Cité Radio. Et pour encore plus de culture à tout moment, rendez-vous sur notre site citéradio.fr.
Family Park, c'est le parc d'attractions en Indre-et-Loire. Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et profitez de nombreuses attractions comme le Family Coaster, le Liberty Slide et le Tiki Waka. Et pour cette année 2024, venez découvrir le Fly Swing mais aussi le Jet Boat pour un surprenant baptême de l'air à fond les manettes. Enfin, accrochez-vous à votre sombrero qui vous transportera dans d'incroyables tourbillons. Rendez-vous dès le 20 avril 2024 au Petit Nitilly à Sorigny pour faire le plein de sensations à Family Park. Informations à retrouver sur le site familypark37.com et sur les réseaux sociaux. Et sachez que vous pouvez tenter de gagner vos places et vos passes en participant à notre jeu concours. Pour cela, il suffit de répondre à une question en allant sur notre site citéradio.fr. Family Park, l'aventure commence ici. Un peu plus de 13h30 sur Cité Radio, merci beaucoup pour votre fidélité et sans plus attendre, nous allons parler économie avec Michel Picot qui vous présente le Business Club de France des entrepreneurs.
Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot.
Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, place à l'actualité des PME dans nos territoires. Elle est partie d'Olympie en Grèce et arrivera en France après son voyage à bord du Belém, un trois-mâts de 1896 qui la transportera donc du 27 avril au 8 mai d'Athènes à Marseille. Première étape en France donc pour la flamme. Ensuite, c'est un vrai marathon qui s'annonce pour cette flamme qui traversera 64 départements, 400 villes avec 10 000 porteurs sur 12 000 km. Alors, quelles sont les retombées économiques de cet événement sur nos territoires? Plusieurs départements, dont le Rhône, la Loire-Atlantique ou encore les Côtes-d'Armor, ont refusé de s'acquitter des 180 000 euros demandés par le comité des Jeux. Trop cher. Pour les autres, s'ajoutent à ces 180 000 euros des frais engendrés. À titre d'exemple, Avignon va ainsi dépenser 300 000 euros en plus. Nouvelle identité pour le groupe de restauration La Boucherie. Le groupe va reprendre le nom de son fondateur pour s'appeler Groupe Bauder. Le but de l'entreprise, dont le siège est à Angers, est de fédérer sous une même bannière les 7 marques et 230 restaurants du groupe, sans compter les 3000 salariés. Parmi ces marques, vous pouvez trouver La Boucherie, Courte Paille, rachetée récemment, mais aussi Poivre Rouge ou encore Le Bistrot du Boucher. À Roscoff, en Bretagne, l'entreprise Pera Pharmaceutical travaille sur un médicament qui réduirait les effets de la trisomie 21. Une avancée médicale, alors que cette maladie génétique concerne entre 50 000 et 70 000 personnes en France. Un reportage de TBO.
Pourra-t-on un jour réduire les effets de la trisomie 21? C'est en tout cas le projet de l'entreprise Pera Pharmaceuticals basée à Roscoff. Cette maladie génétique est à l'origine de difficultés d'apprentissage et de mémorisation chez les personnes. C'est dans ce laboratoire que les équipes ont identifié la cause de ces symptômes.
Et cette anomalie vient de l'expression élevée d'une protéine qui s'appelle DIRCA et qui est la cible de nos candidats médicaments. Donc nos produits, ou notre produit, la leucétinib 21, inhibe et bloque, ralentit cette protéine, DIRCA, et en diminuant légèrement son activité, elle corrige ses déficits d'apprentissage et de mémorisation.
La trisomie 21 est une maladie génétique due à la présence de 3 chromosomes 21. Il est impossible d'en guérir, mais l'objectif du médicament est d'en réduire les symptômes. L'espoir est aussi permis pour les patients atteints d'Alzheimer. Un lien a été établi entre les deux maladies.
Au début, c'était vraiment très séparé, jusqu'au moment où les gens se rendent compte que sur le chromosome 21, il y a 3 gènes qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Mais malgré tout, les gens, c'était assez séparé. Et ensuite, petit à petit, les chercheurs sont dit, mais finalement, la trisomie 21, c'est une forme accélérée d'Alzheimer.
Le candidat médicament doit d'abord être testé avant d'être commercialisé. Des essais cliniques ont débuté sur 96 personnes volontaires. La phase 2 des tests, qui vise à évaluer l'efficacité de la molécule, pourrait commencer en 2025.
La savonnerie Sablaise est, comme son nom l'indique, installée au Sable d'Olonne. Cette savonnerie artisanale crée, fabrique et distribue une large gamme de produits naturels et bio pour les adultes et pour les enfants. Extrait du Mag Éco de TV Vendée, présenté par Cattelgen.
Bonjour et bienvenue dans un univers de bien-être. Nous sommes aujourd'hui à la savonnerie Sablaise au Sable d'Olonne. Donc, je vous laisse imaginer la palette odorante qui nous envoûte dès l'entrée dans la boutique. Aloe vera, miel, lait de brebis ou encore thé vert, voici quelques-uns des ingrédients naturels et bio utilisés ici dans cette savonnerie artisanale qui crée, fabrique et distribue une large gamme de produits allant du savon au baume à lèvres en passant par le dentifrice en poudre. Dans un savon, 100% des agents sont actifs, c'est pourquoi la méthode ancestrale de la saponification à froid a été choisie. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Patricia Garando, la gérante et savonnière de l'entreprise. Bonjour Patricia.
Bonjour Cattel.
Eh bien écoute, on est ravis de venir découvrir ton entreprise.
Ah mais donc, de même.
La savonnerie Sablaise.
Oui.
Dont tu es à l'origine, que tu as créée il y a quelques années.
Oui.
Alors explique-nous un petit peu comment les savons en général sont rentrés dans ta vie.
Oula. Alors, après 26 ans d'activité dans le laboratoire d'analyse médicale.
D'accord.
Plus que ça, il y a eu aussi dans ma vie en 2015 des gros changements personnels.
Ouais.
Qui ont fait que je me suis vraiment posé des questions sur quelque chose qui... Repartir sur quelque chose qui pouvait me passionner dans la vie.
Ouais.
Retrouver vraiment une activité qui me fasse vibrer. Et puis, lors de petites vacances dans le sud, hein, j'ai rencontré la route d'un savonnier.
Ah !
Tout simplement.
D'accord.
Et quand je suis rentrée dans son univers, j'ai ressenti une telle émotion.
Ça t'a donné envie ?
Ah oui, mais carrément. Je me suis ressentie dans mon univers. J'ai toujours aimé, quand j'ai fait mes études de laborantine, je voulais continuer dans le domaine des plantes.
Ouais.
J'en ai pas eu l'opportunité. Je reviens aux sources.
Okay.
Puisque les savons, c'est des huiles, donc des plantes. Beaucoup de recherche, beaucoup de créativité.
Ouais. Et donc voilà. Ça, c'était en quelle année alors ?
Découverte, fin 2015-2016.
D'accord, ok. Et
voilà.
Donc toi, t'habitais déjà au Sable d'Olonne ?
Ah oui, je suis sablaise d'origine, j'habitais au Sable, oui,
et donc,
bien sûr.
Tu t'es dit, ok, ça me plaît, mais au point, je veux dire, de se dire, ok, je vais lancer mon entreprise. Tu aurais très bien pu commencer par faire des savons chez toi et ça serait resté ça.
Alors,
finalement,
j'ai commencé par faire ça déjà pour tester et voir tout ce que ça pouvait apporter comme bienfait. Et puis, ça a été très vite une évidence. J'ai fait une étude de marché pour savoir sur le secteur s'il y avait des savons.
Il ne devait pas y en avoir beaucoup à l'époque.
Non,
il y en a beaucoup plus depuis.
Il y a une très bonne savonnerie sur les Herbiers qui existe toujours,
ouais.
Mais il n'y en avait pas.
Ah.
Et du coup, alors c'était pas du tout tendance, hein, les cosmétiques,
oui.
En 2015-2016, les cosmétiques naturels n'étaient pas du tout tendance,
ouais.
Mais je sentais le frémissement de la part des gens d'avoir envie de retrouver des bons produits.
Mm-hmm.
Un peu marre de se retrouver avec des problèmes de peau, des allergies, de l'eczéma,
mm-hmm.
Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Et puis, c'est vrai que de là, tout a démarré. La petite graine a commencé à germer dans le cerveau. Et puis après, ça a été que s'amplifier.
Après, tu t'es formée. Et
voilà.
Après, tu as lancé cette marque.
Et voilà, l'aventure a vraiment démarré avec 10 formules au départ.
Grâce à un mois de mars particulièrement pluvieux, le département du Gard échappe pour l'heure à la situation de sécheresse précoce qu'il avait connue en 2023. Pour l'anticiper et y faire face, des initiatives sont menées. La dernière en date, l'est sur le bassin de la Cèze, où le syndicat mixte AB16 vient d'organiser l'opération de l'eau de pluie pour l'été. Une opération destinée à généraliser chez les particuliers les récupérateurs d'eau de pluie par une prise en charge partielle de leurs coûts. Les explications d'Olivier Michel de Via Occitanie.
Donc on a doublé les commandes quasiment pour pouvoir répondre à la demande des clients parce qu'on était tombé en rupture quasiment mi-mai, donc très tôt dans la saison, et on a eu de la demande tout l'été.
Ils ont désormais la forme de jarres, de tonneaux ou de murs de pierre et le marché est en plein essor. Les récupérateurs d'eau de pluie sont des produits en vogue face au risque de sécheresse et à la pénurie d'eau.
On a du basique comme ça, c'est du 300 litres. L'idée, ça va être de le placer discrètement sous une gouttière. Et après, pour les gens qui souhaitent vraiment récupérer en plus grosse quantité, on vend beaucoup de 1000 litres. Là, qui ont vraiment des formes cubiques et qui sont un peu plus brutes et qu'on peut assembler les uns à côté des autres pour vraiment avoir une grosse capacité de stockage. Il y a aussi des produits qu'on travaille un peu moins, qui sont des récupérateurs d'eau beaucoup plus design, en forme de jarre, etc. L'idée, c'est que ce n'est pas forcément des produits qui sont très esthétiques et de pouvoir les faire rentrer dans la décoration de la maison, ou en tout cas les insérer discrètement chez soi. Quoi.
Un outil de préservation de la ressource qui est au cœur d'une opération de sensibilisation d'AB16. Le syndicat du bassin de la Cèze, touché par des restrictions d'eau en 2023, dès le 18 avril, a cette année proposé une prise en charge de 50% du prix des récupérateurs, plafonné à 100 euros.
Nous, le bassin de la Cèze, il est en manque d'eau, en déficit, on dit. Donc chaque année quasiment, donc on est obligé d'essayer d'économiser ou de garder l'eau sur le territoire. Et donc on travaille plutôt avec les professionnels. Et il y a une nécessité aussi, et c'est une volonté de nos élus, de travailler avec le grand public pour essayer de garder le maximum d'eau sur le territoire, parce qu'on le voit avec le changement climatique, on a plus de chaleur. On a des prélèvements en eau qui sont assez réguliers et constants, et beaucoup plus l'été avec le besoin agricole ou touristique. Et donc du coup, on a une volonté d'essayer de mettre en place des actions un peu nouvelles là-dessus, sur cette thématique-là, pour inciter les gens à ce qu'ils gardent l'eau chez eux et qu'ils puissent la réutiliser l'été, la prélever hors saison et la réutiliser l'été.
L'opération a été victime de son succès et a dû être stoppée au bout de 2 jours. 250 habitants ont répondu à l'appel, preuve de la prise de conscience de la rareté du bien.
Dans l'Aube, en 2023, les ventes de Chaours ont diminué de 2%. Un bilan en demi-teinte pour le syndicat de défense du fromage de Chaours, réuni récemment à l'occasion de la traditionnelle Assemblée Générale. Pour trouver une croissance positive, les producteurs souhaitent continuer à faire connaître le fromage au bois. Les détails dans ce reportage de Canal 32.
À Chaours, l'heure est au bilan. Pour les producteurs du fromage au bois, 2023 était une année en demi-teinte. Les volumes commercialisés ont diminué de 2%.
La baisse a été concentrée surtout sur le premier semestre 2023 en raison du climat général inflationniste où les consommateurs ont changé un petit peu leur comportement d'achat. Et on retrouve des volumes en croissance depuis la fin de l'année 2023 et début 2024. Donc on n'est pas trop inquiet pour l'avenir. Simplement, c'est vrai que ce sont 2 années de suite qui enregistrent une baisse de volume. Voilà, 2022 et 2023. Mais dans un contexte qui est explicable. Dans la plupart des appellations d'origine fromagère, les volumes sont en baisse en 2023. Nous ne sommes pas les seuls concernés.
Pour retrouver une croissance positive, l'objectif est désormais de renforcer la notoriété du produit, notamment en accentuant la communication.
On va inspirer un nouveau souffle du coup au niveau de la communication pour essayer vraiment de poursuivre les efforts pour faire connaître le Chaours. Et du coup, en fait, c'est ça qui nous permettra de vendre plus et du coup de transformer plus.
En 20-25 ans, il y a eu une forte identification de la filière, des producteurs, un renforcement au niveau des transformateurs, notamment de la qualité, de la notoriété. Un gros travail de cohésion de l'ensemble de la filière, une belle identité locale. On doit continuer à s'appuyer sur ces fondamentaux.
Parmi les principales opérations de communication, la Chaours Week, la 4e édition de l'événement est en préparation.
On va renouveler cette année. On demande à tous les restaurateurs donc de l'aire géographique de production du Chaours, donc de l'Aube et de Lyon, de mettre à l'honneur le Chaours, donc soit via des recettes, soit des accords mets et vins. L'année dernière, pour la 3e édition, on avait quand même une belle hausse au niveau de la participation. On espère encore avoir plus de participation cette année, puisque l'événement, voilà, ça va être la 4e édition, est déjà plus connue au sein du secteur. Et puis, on va étendre également à la ville de Dijon, donc pour essayer de toucher de nouveaux consommateurs.
Début 2024, les producteurs de Chaours étaient présents au Salon de l'agriculture organisé à Paris. Une occasion de mettre en avant la spécialité auboise à l'échelle nationale.
Merci d'avoir suivi cette édition du Business Club de France des entrepreneurs, émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en audio podcast. Vous pouvez nous écouter dans votre voiture. Abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes. Enfin, merci également aux radios qui diffusent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
Contre son autre, quand elle me dit s'il te plaît laisse-toi aller, on ne vivra plus jamais l'un sans l'autre, et je me perds, je la laisse faire, et je saigne quand elle me serre contre elle. Défi, je reviens la démasquer. Elle se retient d'essayer. Côte à côte comme les autres, loin des sourires, loin de nos rêves éveillés. Elle fuit la réalité comme les autres, et je me perds, je la laisse faire, et je saigne quand elle me serre contre elle. Attends, a raison, je sais.
Écoutez cette musique sur Cité Radio. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre et merci pour votre fidélité. Moi c'est Guillaume et je vous accompagne maintenant pour un instant 100% musique française avec également des idées sorties. Et sans plus tarder, voici une idée sortie à faire en Touraine. Belle journée à tous.
Cité Radio, les bons plans.
Du 8 mars au 17 juin 2024, vous avez rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Tours pour l'exposition Le Sceptre et la Quenouille. Celle-ci est consacrée aux femmes entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, en France et en Europe du Nord. Toutes les femmes trouvent leur place au cœur de cette exposition, qu'elles soient princesses, nobles et bourgeoises, commerçantes et paysannes, riches et pauvres, au pouvoir ou au travail. Peintures, sculptures, manuscrits et objets du quotidien issus des plus grands musées, soit plus d'une centaine d'œuvres majeures, sont rassemblés pour mettre en lumière la place, le rôle et l'image des femmes dans la société des 15e et 16e siècles. Cette exposition exceptionnelle propose ainsi un regard nouveau sur les femmes des époques médiévales et modernes, abordées dans toute leur profondeur, et offre une remise en perspective historique à un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines. L'exposition Le Sceptre et la Quenouille est donc à découvrir du 8 mars au 17 juin 2024 au Musée des Beaux-Arts de Tours. Le lieu est ouvert le lundi de 9h30 à 18h et du mercredi au dimanche de 9h à 18h. Toutes les informations sont à retrouver sur le site mba.tour.fr. Et restez connectés puisque la programmation revient tout de suite. Très bonne journée à tous sur Cité Radio.
À Chambray-les-Tours, on écoute Cité Radio sur le 89.3.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui sur Cité Radio. Merci à tous pour votre fidélité. Nous poursuivons cet instant 100% musique française avec également des bons plans à faire dans votre secteur. Et justement, nous vous proposons d'écouter une nouvelle idée sortie.
Cité Radio, les bons plans.
Un bon plan loisir avec le parc des mini-châteaux du centre Val-de-Loire. Situé à Amboise, vous pouvez parcourir des siècles d'architecture en déambulant dans un parc arboré de 2 hectares et ainsi découvrir des joyaux du patrimoine français. Pas moins de 41 des plus beaux châteaux de la Loire sont reproduits à l'identique à l'échelle à 25e, allant d'Amboise à Blois et de Chambord à Villandry. Vous pouvez aussi profiter des espaces ludiques et des attractions, que ce soit en famille, en couple ou entre amis. Le parc des mini-châteaux est ouvert toute l'année de 10h à 18h à Amboise. Toutes les informations sont à retrouver sur le site parcminichâteaux.com. Et restez bien à l'écoute puisque c'est le retour de la programmation tout de suite sur Cité Radio. Belle journée à tous.
L'info locale, c'est sur Cité Radio à Saint-Cyr ou à Saint-Pierre-des-Corps sur le 89.3.
Quelqu'un qui nous laisse, quelqu'un qui vous blesse. quand il s'en va trop loin de nous. Ils sont en nous-mêmes, à portée de nos souvenirs. Pas un mot de trop que le geste qu'il faut pour une dernière fois les retenir. Personne ne finit dans l'oubli si quelqu'un l'attend encore ici. Un ami manque toujours, on pense toujours. Quand leur peine est plus forte que tout, quand ils se détestent d'être ceux qui restent, ceux qui doivent aller jusqu'au bout. Personne ne finit dans l'oubli si quelqu'un l'attend encore ici. Un ami manque toujours, on pense toujours à son retour. Passer reprennent vie, les présents, les absents réunis. Un jour, il fera bon de s'endormir et ne plus penser au pire. On vit aussi de souvenirs. Un jour, tous les espoirs sont permis, que le passé reprenne vie.
C'est toujours un plaisir de vous accompagner sur Cité Radio pour cet instant 100% musique française, avec également des bons plans à faire dans votre secteur. Et justement, nous vous proposons de découvrir une nouvelle idée sortie. Belle journée à notre écoute.
Cité Radio, les bons plans.
Jusqu'au 2 juin 2024, venez à l'hôtel Gouin de Tours pour découvrir d'un regard à l'autre. Cette exposition photographique vous emmène dans l'univers du parasport. Pas moins de 42 portraits d'athlètes sont présentés et réalisés en marge des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et mettant en lumière des parcours de vie marqués par la résilience. Leurs espoirs couronnés par des médailles sont des victoires tant sportives qu'humaines, le témoignage de leur abnégation, de leur volonté féroce et de leur parcours jalonné d'épreuves dont ils ont su se relever toujours plus fort. C'est donc à ne pas manquer du 6 mars au 2 juin 2024 à l'hôtel Gouin de Tours. Le lieu est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h et toutes les informations sont à retrouver sur le site hotelgouin.fr. Et restez connectés puisque la programmation revient tout de suite. Très bonne journée à tous sur Cité Radio.
Vous êtes à l'écoute de Cité Radio, la positive info.
Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau décrier, outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de le voir nu, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non.
La main et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Et on se prend la main
ont des cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles? Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île?
On se prend la main